et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, on va vous parler d'école, on va vous parler de difficultés à parler aux gens, on va, que d'ailleurs je bafouille, on va vous parler de super-héros et on va vous parler de pinards et de bouquins qui font mal à la tête. Attention, générique.
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb. Nous allons être ensemble pendant une heure et puis on va parler de bande dessinée. On va propulser par le truchement des ondes radiophoniques directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Comics, pas vraiment ce soir, parce que j'en ai pas. Mais c'est pas grave. Encore une fois, je suis content de vous retrouver en préambule, et je veux le redire aussi avant de vous quitter tout à l'heure, je voulais vous rappeler que je serai à l'Angers Geek Fest le prochain là qui arrive. J'ai perdu les dates, j'avais un joli petit papier que j'ai paumé, je vais vous le retrouver tout de suite. Donc je serai à l'Angers Geek Fest et le but ce sera de pouvoir échanger autour de la thématique de cette année, à savoir utopie et dystopie, si je ne me trompe pas. Vous allez voir, c'est super thématique. Voilà, utopie et dystopie. Donc, ce sera les 1er et 2 avril prochains. Et j'aurai le plaisir de me balader. Alors, soit je serai présent sur le studio mobile de la radio, soit je me baladerai avec mon petit micro. Et le but, ce sera de vous faire parler de vos BD favorites. Alors, que ce soit du manga, du comics ou du franco-belge, peu m'importe, je suis multitâche. Et vous pourrez me parler de vos meilleur BD utopique ou dystopique. Et puis, ce sera l'occasion d'entendre votre voix à la radio nous parler de ces beaux albums, quitte à me parler autant que ce soit diffusé après. Donc, rendez-vous les 1er et 2 avril 2023 à l'Angers Geek Fest. Ce sera au Parc des Expositions d'Angers. Et puis, si vous souhaitez y aller gratuitement, n'hésitez pas à simplement m'en faire la demande dans les commentaires de la page Facebook La Case de Seb ou Les Voix du Scénarium. Il y a deux places à gagner que je me ferai un plaisir de vous offrir par tirage au sort. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est important pour vous et puis c'est important pour moi parce que ça me permet aussi de voir que vous allez pouvoir avoir envie d'y aller. Donc ne traînez pas, Facebook, Instagram, La Case de Seb, Vos Scénarium, il y a des places à gagner, n'hésitez pas à me solliciter. Je vais commencer, on y va toujours hein, de manière graduelle, par vous parler de bande dessinée jeunesse. On fera une petite pause manga, puis on fera des livres qui font un peu plus mal à la tête juste après. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Je voulais commencer avec Mira, mes copains, mes copines et l'amour, c'est aux éditions Casterman. C'est de Sabine Lemire et Rasmus Bregnau. Je suis désolé pour la prononciation du nom, je suis incapable de prononcer des lettres que je ne connais pas. C'est un dessinateur danois, un des dessinateurs les plus connus, qui est le compagnon de Sabine Lemire, hein. C'est marqué dans le livre. Et du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mira, qui a une très très grande copine qui s'appelle Naja. C'est sa meilleure amie, et puis elle a un pote qui s'appelle Louis, avec lequel elle se sent super bien. Et puis un jour, en fait, arrive la cousine du garçon sur lequel Naja, sa meilleure copine, a des vues. Et du coup, Naja, elle se dit que, en se rapprochant de cette cousine, Betty, eh ben, peut-être qu'elle se rapprochera plus de Benjamin, le fameux garçon en question. Sauf que, Mira, elle prend un peu de recul vis-à-vis de ça, parce qu'elle, elle n'a pas d'amoureux. C'est pas quelque chose qu'elle s'est posé comme question. Et puis, elle perd un peu sa meilleure amie de ce moment-là. Donc, ça lui permet de se poser plein de questions. Elle se remet beaucoup en question. Elle regarde sa chambre. Elle trouve que peut-être elle fait un petit peu bébé, sa chambre. Donc, elle va modifier des choses. Elle essaie de discuter un petit peu avec ses copines. Et puis, effectivement, on est dans cette période de transition où on n'est pas tout à fait une ado, pas tout à fait sur les pas d'un adulte, et puis pas encore tout à fait plus une enfant. Ce qui fait que elle a des petites questions. Elle sait pas ce que ça veut dire vraiment être amoureuse. Est-ce que Louis, son copain, qui est un pote, hein, est-ce que le fait qu'elle se sente vachement bien avec lui fait qu'elle peut être amoureuse de lui? Est-ce que ça peut changer quelque chose à sa relation si justement elle lui avoue qu'elle a des sentiments, et peut-être que il va pas être d'accord, et puis peut-être que simplement aussi elle va casser une amitié simplement parce qu'elle veut expérimenter ce que c'est qu'être amoureuse. Alors c'est un petit peu complexe pour elle, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis à côté de ça, on a aussi sa maman, qui elle est une mère célibataire, qui a quitté le papa de Mira quand elle était petite, ce qui fait que Mira n'a jamais connu son papa. Par contre, elle a connu tous les copains qu'avait pu avoir sa maman, lui présentant une certaine forme de l'amour qui n'est pas tout à fait la même. Et du coup, elle a cette relation mère-fille qui est parfois un petit peu conflictuelle, mais parfois très facilement compréhensible, et ça donne de beaux échanges. C'est très intéressant à lire. Alors même si on a, je veux dire, un décalage, puisque ça se passe au Danemark, mais c'est pas vraiment très très différent de chez nous, mais on a ce petit décalage qui se crée, et puis graphiquement, moi c'est pas vraiment un gros kiff pour moi, même si c'est très lisible, il y a beaucoup de traits de crayon, ils ont des personnages, ont des grands visages, je suis pas un grand fan, mais ça marche très bien, c'est suffisamment explicite pour que ça fonctionne. Ma fille l'a lu, je crois, hein. J'ai oublié de lui demander son avis sur le dessin, mais ça marche. Donc les personnages ont, avec ces grands yeux expressifs, ces grandes têtes, et puis ces espèces de corps en ce que j'aime appeler fil de fer, en fait, avec vraiment des angles un peu bruts qu'on aurait pu plier telle une marionnette, ça marche bien. Donc voilà. Hormis le fait que voilà, moi je suis pas sensible à ce dessin-là, ça marche, c'est une belle BD, on va dire, à mettre dans les mains d'une préado pour pouvoir lui faire découvrir un petit peu les méandres de l'amour et de ce que ça peut impliquer comme tourment, et que surtout faut pas se presser, c'est pas ça qui est intéressant. Donc voilà. Donc je vous redonne les références, c'est Mira, mes copains, mes copines et l'amour, c'est publié aux éditions Casterman, et c'est de Sabine Lemire et Rasmus Bregnøy, je veux dire comme ça, parce que voilà, le danois, encore une fois, je ne maîtrise pas. On va faire dans le plus léger avec Jean Mougli, Le collège, c'est la jungle. Alors, de Giovanni Juzo, c'est publié aux éditions Bambou. Comment dire ? Alors déjà, on va partir de la base. C'est une BD qui est prépubliée dans Okapi, qui permet d'y avoir une ou deux pages ou un sketch à chaque fois dans Okapi. Puis du coup, c'est l'occasion de le republier chez Bambou en version complètement reliée. Donc si vous êtes abonné à Okapi, je pense que tous les gags qui sont dedans, vous les avez déjà lus. Jean Mougli, ça doit être un personnage que vous connaissez. Et puis, si vous l'avez pas connu, faut acheter la BD, ça vous permettra de la découvrir. Jean Mougli, c'est un jeune garçon qui est le fils adoptif du roi de la jungle, un singe, et qui a passé son diplôme de jungle, qui est un petit peu succinct. La première leçon et la seule leçon, c'est « je ne dois pas me faire manger ». Et du coup, si vous arrivez à répéter ça, eh ben vous avez votre diplôme et vous avez fini les cours. Donc les parents, trouvant que pour un futur roi c'était un peu léger, le monsieur et madame singe décident d'aller dans la ville pour que Jean Mougli puisse apprendre en fait à vivre le quotidien avec nous. Bon, c'est pas bien gagné parce que Jean Mougli, déjà, il se trimballe tout le temps en slip. Ouais, parce que on lui a dit qu'il fallait qu'il mette des vêtements. On lui a pas dit quelle quantité. Et puis voilà, un slip pour lui c'était suffisamment couvert par rapport à ce qu'il mettait d'habitude. Mais bon, voilà. Donc ça lui apporte plein de blagues. C'est beaucoup de gags. C'est des beaucoup de gags en une page, très rarement plus, qui vont jouer sur le côté de ce petit garçon très peu civilisé, qui vit du coup dans un appartement avec son père et sa mère singe. À un moment, il y a un twist, parce qu'il y a la grand-mère qui débarque et son pote rhinocéros, et sa découverte, on va dire, de la vie et du collège. Qui est à mille lieues en fait de ce qu'on pourrait imaginer, de ce que quelqu'un qui a vécu toujours dans la jungle peut imaginer. Du coup, il va utiliser parfois des réflexes, on va dire, d'animaux de la jungle dans son quotidien, alors que non, il ne devrait pas faire ça. Donc, vous l'avez compris, hein, je pense à ma critique, c'est que c'est une BD qui est complètement barrée, complètement dingo. Mais ça marche bien, c'est mignon, c'est rigolo, le dessin est plutôt fun, c'est coloré, c'est que de l'aplat, mais ça marche suffisamment bien pour de la BD à base de gags, et ça fonctionne bien. Donc voilà. Si vous êtes comme moi, vous n'allez pas vous marrer à chaque page, hein, parce que honnêtement, tous les gags ne sont pas hyper quali, mais ça marche. Donc bon, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez vous marrer, encore une fois, j'ai pas demandé à ma fille si elle l'avait aimé, mais je l'ai vu le lire plusieurs fois. Donc, ça veut dire que pour le public visé, ça marche très très bien. Donc, voilà. Donc voilà, je vous redonne les références. C'est Jean Mougli, Le Collège, c'est la jungle. C'est publié aux éditions Bambou et c'est de Giovanni Giuso et Giovanni Giuso tout seul. Voilà. Et puis, on va faire une troisième petite BD jeunesse. Avec une BD. Alors, je vais vous mettre tout de suite. Ceux qui me connaissent le savent déjà. C'est une BD qui est issue d'une personnalité. Donc, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, ça s'appelle Le Petit Issa. Je vais vous donner les références. Donc, Le Petit Issa, tome 1, La Kiffance. C'est publié aux éditions Kenes. C'est de Issa Doumbia, Jeanne de Goua ou de Joie. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Et de Leroy. Et du coup, si vous connaissez pas Issa Doumbia, c'est un humoriste que je connaissais pas beaucoup non plus. Mais du coup, j'ai toujours tendance à me méfier en fait de ces BD que je considère un petit peu, désolé pour le mot, hein, opportuniste. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la notoriété de quelqu'un pour faire une bande dessinée. Et du coup, j'ai toujours beaucoup de mal à prendre des albums comme ça et à leur trouver des qualités. Pour être hyper transparent, j'en ai trouvé dans Le Petit Issa, La Kiffance. De toute façon, vous savez bien comment je fonctionne. Si je n'aime pas quelque chose, je n'en parle pas. Hein. Je vais pas te dire du mal d'une BD. Et je trouve ça très très dur aussi de défendre une BD qu'on n'a vraiment pas aimée, dans laquelle on n'a pas trouvé de qualité. Donc, Le Petit Issa, c'est une BD que j'ai aimée, même si je n'ai pas toujours ri. C'est une BD, c'est un recueil avec principalement des gags en une ou deux pages. Et qui nous raconte en fait l'enfance d'Issa Doumbia, qui est un petit garçon un peu turbulent, hein, qui a dû vivre dans une cité. J'ai pas fait attention. La vie d'un petit banlieusard, qui va nous faire découvrir en fait avec. C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il y a une certaine authenticité dedans. Il nous raconte sa vie de petit garçon avec les bêtises qu'il a pu faire, les vannes qu'ils ont pu se trouver avec les copains. Il y a son quotidien, ça parle de religion, ça parle de plein de choses. Je trouve que c'était authentique, que ça marchait bien. Par-delà le fait que ce soit une BD d'une célébrité. Je pense que si on connaît pas Issa Doumbia, on vit quand même bien les références et les aventures de ce petit Issa dans son quotidien. Et on s'identifie bien en fait à ça. Ça marche, hein. On va avoir un petit garçon qui va faire son anniversaire avec la maman qui veut essayer d'être cool. On va avoir des petits garçons qui ont pas beaucoup d'argent, donc il y a des petites choses comme ça. Elle est à la fois authentique et touchante parce que c'est des situations que n'importe quels enfants vont avoir vécu ou peuvent avoir vécu au-delà de la vanne et qui vont permettre aussi de comment dire de sensibiliser les enfants à ça. Il y a une vanne avec des chaussures où le petit garçon, il y a des chaussures qui font rire les autres copains. Tout le monde a vécu ça. Tout le monde a eu des fringues à un moment qui ont fait rire d'autres copains. Et ça va au-delà de la blague. Et ça finit quand même sur une note humoristique. Mais du coup, c'est franchement franchement sympa. Au niveau dessin, on est sur un dessin qui fonctionne bien, qui est pareil, encore un dessin. C'est de la BD qu'on va appeler de la BD grenée, hein, de la BD qui est calibrée pour faire de l'humour, avec des tronches, avec des positions, avec un découpage qui parfois est un peu. On a des sauts de temps, des sauts temporels assez brutaux des fois entre chaque case, mais ça marche très très bien. C'est efficace, c'est touchant. Avec toute la gentillesse que j'ai, hein, c'est certainement pas la BD du siècle, mais ça marche, c'est touchant, c'est authentique, et c'est vraiment ça que j'aimerais que vous reteniez si jamais vous deviez acheter cette BD, c'est que vous allez revivre l'enfance d'un petit garçon, et c'est vraiment ça qu'on ressent. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment sympa. Donc ça s'appelle Issadou, je vais y arriver, ça s'appelle Le Petit Issa, tome 1, La Kiffance, donc il y en aura sans doute d'autres derrière, c'est d'Issa Doumbia, Jeanne de Goy et Leroy, et c'est publié aux éditions Kenes. On va se faire une petite pause musicale, je vais faire une petite dédicace à ma chère épouse qui normalement doit m'écouter, j'espère que les enfants à la maison m'écoutent aussi, j'espère que vos enfants vous écoutent aussi et m'écoutent aussi à la maison, et je fais une petite dédicace avec un morceau du dernier album de Deus, le morceau 1989. On se retrouve tout de suite sur le 101.5 de Radio G.
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes de retour dans la case de Seb sur le 101.5 de Radio G. C'était Deus avec 1989. Moi j'ai bien aimé, hein, je sais pas si vous avez kiffé, voilà, Deus qui vient de sortir un nouvel album. Profitez-en, il faut y aller. Voilà, désolé pour le boom, j'ai posé un truc trop fort à côté. On est parti pour une petite session de manga avec trois mangas. Alors, le premier, c'est surtout une suite. Je vais pas spoiler en fait. C'est toujours délicat pour moi de parler d'un album en cours, parce que j'aime bien laisser les gens découvrir, mais en même temps, j'ai envie de leur donner envie de lire. Donc, c'est toujours délicat un petit peu de parler d'un tome en cours de route, donc on va y aller quand même, avec le tome 4 de La Cuisine des Sorciers, qui est sorti il y a peu de temps. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas La Cuisine des Sorciers, c'est un spin-off de L'Atelier des Sorciers, si je me trompe pas sur le nom, de Kamome Shirahama, et c'est une BD qui est vraiment sublime, c'est un manga qui est vraiment sublime, c'est publié aux éditions Pika, pardon, j'avais pas fait ça, et c'est vraiment quelque chose, j'ai eu un vrai coup de cœur en lisant L'Atelier des Sorciers, puisque le dessin est très fin, le dessin est très agréable, il y a vraiment un coup de crayon qui est vraiment fabuleux selon moi. Et c'est un manga qui parle de sorcellerie, et on t'explique beaucoup aussi que cette sorcellerie, elle dépend d'une certaine encre et d'une façon de faire les choses, et que si on ne dessine pas correctement, la magie ne peut pas se faire. Faisant forcément un parallèle avec le dessin qui, s'il est bien fait, peut te donner l'impression que tout fonctionne. Alors, vous voyez le côté un peu méta du truc. Bref, ça, c'est pour L'Atelier des Sorciers. La Cuisine des Sorciers, c'est quoi? Eh ben, comme son nom l'indique, c'est des aventures, des histoires qui vont se passer dans l'univers de L'Atelier des Sorciers, mais en parallèle des histoires existantes. On va retrouver les mêmes personnages, et puis ils vont cuisiner. C'est surtout des moments de détente, des tranches de vie, et ils vont faire des plats. Et c'est ça qui est génial, c'est que on nous fournit les recettes de ces plats que techniquement on ne va pas pouvoir faire, puisque ce sont des recettes à base d'ingrédients magiques. Alors pas toujours, hein. Là dans ce dernier tome, je me rappelle pas toutes les recettes, mais on a des recettes sont capables, qu'on peut pouvoir faire avec nos ingrédients à nous. Des fois, il va falloir adapter, parce que il y a des ingrédients qui sont des trucs magiques qui n'existent pas. Mais du coup, on va quand même nous faire des recettes avec tout par le menu. Donc, si un jour on est capable de trouver, je sais pas, des oignons pétales, tiens par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Je fais beaucoup de cuisine, hein, je vous cache pas. Et des oignons pétales, je ne connais pas. Donc, si un jour on a des oignons pétales, on pourra faire une recette qui est là-dedans. Il y a du gingembre de roche, hein, vous voyez, il y a des trucs qui sont des recettes qu'on ne connaît pas et qui nous donnent vraiment envie, avec des vraies recettes qui suivent des étapes tout à fait pertinentes. Hein. Voilà, comme je fais suffisamment de cuisine, je suis capable de me dire, tiens, cette recette, elle a l'air faisable ou pas. Bon là, par le fait que certains ingrédients sont l'air du cadeau fond. Voilà, je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est que du cadeau fond. Je me renseignerai, peut-être que c'est quelque chose, mais des carottes lames, par exemple, je sais que ça n'existe pas, les carottes lames. Donc, voilà. Mais le dessin est superbe, on a vraiment envie de manger lorsqu'on regarde les plats qui sont faits. Il y a un soin du détail, il y a un soin sur la présentation des types de légumes, des types de choses qui marchent très très bien, qui est vraiment très très beau. Ce qui rend le manga limite frustrant, parce que techniquement on a vraiment envie de manger ce qu'on nous présente, et on sait qu'on ne pourra pas, ce qui est hyper frustrant, vous en conviendrez. Donc voilà, je vais pas vous révéler ce qui se passe dans l'histoire, hein, parce que voilà, c'est l'occasion, mais c'est surtout principalement des tranches de vie en parallèle, on va dire, de l'histoire principale de L'Atelier des Sorciers. Le dessin est vraiment très sublime, c'est super fin, c'est un design qui est vraiment top, qui est ouais, Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Donc, n'hésitez pas à lire ces deux séries, que ce soit La Télé des Sorciers ou La Cuisine des Sorciers, l'une ou l'autre. Je pense qu'on peut lire La Cuisine des Sorciers sans avoir lu La Télé des Sorciers, même si ça va perdre quand même beaucoup de son sens, puisque effectivement, il va manquer pas mal de détails, pas mal de choses. Mais bon, n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est l'occasion aussi de découvrir. Donc voilà, c'est Jordan les références. C'est donc La Cuisine des Sorciers, c'est de Kamome Shirahama. C'est dessiné par Hiromi Sato dans La Cuisine des Sorciers. C'est Kamome Shirahama qui dessine L'Atelier des Sorciers. Et c'est publié, les deux sont publiés aux éditions Pika. Et c'est vraiment très très bien. N'hésitez pas à y aller. C'est vraiment très très bien. Un autre manga, alors là, qui est, je vous avoue que quand je l'ai lu, je ne savais vraiment pas, quand je l'ai commencé, quand je l'ai pris, je ne savais pas à quoi m'attendre. Bon, on avait un petit bandeau par le chara-designer de Star Fox, F-Zero, Zelda Majora's Mask, etc. Ça s'appelle Omega 6, c'est de Takaya Imamura, c'est lui le chara-designer, et c'est publié chez Omake Manga. Donc avec tout ça, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, à part peut-être un truc un peu space-op avec des héros type Power Rangers, puisque on a une espèce de vaisseau sur la couverture avec deux personnages, un dans une tenue bleu-vert moulante avec des épaulettes et l'autre dans une tenue rosée, donc un garçon, une fille, une espèce d'animal qui ressemble à une mouche, une mouche humanoïde sur la droite, on a une espèce de robot un peu chelou sur la gauche. On a un truc avec qui fait un gros coup de poing, une espèce de créature avec un visage très effrayant derrière, et puis une espèce de gros monstre qui montre un truc du doigt avec beaucoup de muscles. Et c'était, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et puis au fur et à mesure que je le lisais, je me suis dit mais je ne comprends pas ce que je lis. Qu'est-ce que c'est que cet ovni ? Parce que c'est vraiment un ovni ce manga. Puisqu'on va suivre en fait l'histoire de deux protagonistes dont j'ai perdu les noms, Thunder et Killa, qui cherchent une planète de remplacement pour la planète Terre. Ils ont besoin d'une planète qui soit habitable pour sauver l'humanité. Donc ils vont faire beaucoup, 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 beaucoup. Et puis un jour, ils vont tomber sur une planète qui a l'air de remplir toutes les conditions pour pouvoir être habitée. Sauf que elle est à vendre, et elle est à vendre très cher. Parce qu'il y a un agent immobilier qui dit, moi je vous la vends, mais ce tarif-là. Et pas vraiment pourvus de monnaie dans leur trajet, donc c'est un peu le bazar. Donc ils vont se faire chasseurs de primes pour essayer de comprendre et d'amasser une somme suffisante pour pouvoir acheter cette planète. Et puis dans leur péripétie, ils vont du coup aller batailler contre des gars beaucoup trop forts pour eux, mais ils peuvent compter sur deux capacités, une espèce de potion qui va décupler toute leur force, toute leur énergie, tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et puis ils vont avoir aussi donc un contre-coup que je vous laisserai découvrir. Et puis ils vont avoir une espèce de je prends la référence à Star Wars de mémoire, une espèce de cuve de Bacta dans laquelle on peut plonger les gens et qui leur permettent de rajeunir. Donc ça leur permet de régénérer un peu leur force. Comment dire, c'est complètement barré. C'est ultra dynamique. Le dessin, il est plutôt old school. On a des cases avec des gros découpages. Les personnages, ils ont des trognes, on sent le côté chara design, parce qu'il y a chaque personnage a un style vraiment à lui et complètement barré. C'est vraiment un ovni. Je vois pas comment le dire. Il y a beaucoup d'action, il y a très peu de temps mort, il y a beaucoup de bagarres. Ça file à une vitesse qui est assez impressionnante. Graphiquement, on a un côté un peu rétro avec cette. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a beaucoup de zones de gris, il y a beaucoup d'ombrages qui sont faits, il y a beaucoup de traits de crayon qui donnent l'impression, qui donnent un chara-design un peu aussi old school. Certains des méchants, on peut avoir l'impression qu'ils sont sortis de chez Goldorak, donc il y a ce côté un peu rétro qui marche bien. Le format aussi un peu plus petit, non même pas, j'allais dire une bêtise, que la moyenne, mais du coup c'est, je sais pas, le cadrage fait qu'on a l'impression que c'est très serré. Chaque page est vraiment très dense, donc il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup d'usages de trames dans tous les sens. Il y a beaucoup d'action. Encore une fois, je le redis. Il y a quelques pages qui sont un peu psychédéliques. Il y a des ressorts scénaristiques et des surprises et des retournements de situation toutes les 15 secondes. C'est vraiment un truc complètement barré. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie. Alors, je le conseille pas forcément aux plus jeunes. Je dirais plutôt ados parce que il y a quand même pas mal de gros mots. Il y a quand même la grosse bagarre. Donc voilà, il y a pas de mémoire, il y a pas de trucs sanglants, mais voilà. Donc, c'est plutôt fun. N'hésitez pas, je vous redonne les références. Donc c'est Omega 6 de Takaya Imamura et c'est publié aux éditions Omake Manga. Je vous propose de se refaire une petite pause musicale. Là, je vais vous mettre un truc, je crois qu'elle est, je sais même pas comment, de quelle nationalité elle est. C'est Lexi Liu avec la chanson Magicien. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Sous-titrage Société Radio-Canada. www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Vous venez d'entendre Lexi Liu avec Magician. Voilà, vous allez adorer mon anglais, qui est le plus fabuleux du monde. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, c'est quand même moi qui ai raison. J'espère que vous passez toujours un bon moment en ma compagnie, que vous faites de belles découvertes de manga, de comics et de BD. Je vais vous faire découvrir... Un manga, alors on en a déjà parlé il y a un petit moment, mais du coup je suis une petite fille à la maison qui est un petit peu je l'adore ma fille, hein, mais quand elle aime bien quelque chose, elle aime bien qu'on le partage avec elle. C'est important, hein, d'ailleurs, de partager les choses avec ses enfants. Et elle est tombée assez fan d'une série qui s'appelle Komi cherche ses mots. Alors je lui ai demandé de me faire une critique, hein, de Komi cherche ses mots. Elle l'a toujours pas fait, parce qu'il faut qu'elle fasse ses devoirs d'abord, hein, ma puce. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi, chers parents, que vos enfants, c'est d'abord les devoirs, après autre chose. Bref. Pourquoi je vous reparle du coup de Komi cherche ses mots ce soir? Bon, déjà parce que la série continue. Là, j'ai le tome 6, je crois qu'on est déjà rendu au tome 8. Je vais revérifier en même temps. Et surtout parce que il y a une série Netflix qui existe. Donc, c'est une série qui comporte de mémoire 2 saisons de 12 épisodes. Et il y a aussi un film en live action dont je ne parlerai pas parce que je n'ai aucune idée de savoir s'il est bien ou pas, je n'ai pas tombé dessus. Bref, Komi cherche ses mots, ça parle de quoi? Donc en VF on est rendu au tome 6 et en VO, en japonais du coup, on est à 28 tomes. Donc Komi cherche ses mots, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Shoko, donc c'est son prénom et Komi c'est son nom de famille, les japonais s'appellent beaucoup par leur nom de famille, et elle a un problème, et déjà elle est super belle, elle est considérée comme étant la fille la plus belle de son lycée, et elle a un autre problème, c'est qu'elle est hyper hautaine, elle ne parle à personne. Dès qu'on lui adresse la parole, elle nous regarde comme ça, comme si elle fouillait les tréfonds de notre âme, et elle ne nous parle pas. Mais en fait, Komi, c'est pas parce qu'elle est hautaine qu'elle ne parle pas, c'est simplement parce qu'elle souffre d'une forme d'anxiété sociale très prononcée. Ce qui fait qu'elle est tout le temps stressée, et qu'adresser la parole à quelqu'un lui demande un effort surhumain, mais vous imaginez même pas à quel point. Et elle va se lier d'amitié à un jeune garçon qui va savoir passer un petit peu au-delà de son anxiété sociale et arriver à communiquer avec elle au départ par écrit. Et ce jeune homme s'appelle Tadano. Et il va découvrir que Komi a une envie très simple. Elle voudrait simplement avoir des amis et qu'elle se fixe comme objectif d'avoir 100 amis avant d'avoir fini ses années de lycée. Vous allez me dire, comment on se fait des amis si on peut pas leur parler ou si simplement le fait d'adresser la parole à un inconnu, c'est compliqué. Et ben justement, c'est là tout le challenge de ce manga, c'est de permettre à Komi, grâce à Tadano, et peut-être aussi grâce à elle-même un peu plus tard, de se faire des amis. C'est une série qui marche bien, c'est une série qui met en avant des problématiques qu'on n'imagine pas. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont, par timidité maladive, être incapables de parler aux gens ou de faire le premier pas pour discuter avec d'autres. Et autant dire que le lycée de Komi est rempli de personnages avec des troubles du comportement. On va avoir le personnage qui est ultra sociable. On va avoir le personnage qui se croit toujours enfermé dans un jeu vidéo. On va avoir le personnage qui n'a qu'une envie, c'est d'être en compétition avec quelqu'un et d'arriver à battre quelqu'un. Et en fait, tous les personnages que Komi va rencontrer souffrent tous d'un petit problème de communication. Et pas que, il y en a une qui est un gros pète au casque, c'est pas juste un problème de communication. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et du coup, tous ces personnages-là sont... Donc en fait, je les aime bien. Je les trouvais tellement caricaturaux au départ qu'en fait, je me suis rendu compte, en regardant la série et en lisant les mangas, que je finis par bien les aimer. Ces personnages-là, ils ont des défauts, ils ont des maladresses, Il y a une petite fille, une fille qui vient de la campagne, qui a l'impression que tout le monde la juge simplement parce qu'elle vient de la campagne, alors que tout le monde s'en fout en fait. On a le type qui est pas venu pendant 6 mois à l'école parce que il a loupé le début de l'école et il avait peur d'être intégré plus tard, donc il a fait plein d'efforts pour être super cool, ce qui fait que tout le monde a l'impression que c'est un délinquant, et en fait non. Parce que il y a que lui qui a l'impression qu'il est un délinquant aux yeux des autres et il n'arrive pas à parler aux gens. Et il y a plein de personnages comme ça qui sont tellement originaux, tellement rigolos que ça rend le truc hyper intéressant. Et toujours avec cette commis qui, quand elle est au naturel, a une espèce de regard, elle a un regard très profond qui nous percerait l'âme jusqu'au cœur. Et puis en fait, quand elle essaie de parler à des gens, elle est en mode c'est pas un mode SD comme on pouvait avoir dans le collège foufoufou ou par là. C'est juste que sa tête perd toute expression et on a juste deux gros yeux qui sont deux grosses billes, comme si on avait appuyé très très fort sur les peluches, vous savez, qui sortent les yeux, les peluches avec des espèces de gelée. On a l'impression d'avoir comique, elle a deux gros yeux comme ça qui elle est complètement tétanisée. Les deux yeux d'un petit lapin qui serait sur la route et qui se serait pris les phares d'une voiture et qui se retrouve tétanisé face à cette voiture, ben c'est exactement ça qu'on va retrouver dans Komi. Donc c'est un manga qui est hyper intéressant, qui met en avant effectivement cette thématique d'anxiété sociale et de difficulté de communication sur plein de points, qui est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait imaginer, qui est à la fois touchant et parce que je pense que vous allez, il y a au moins, si vous avez fait le lycée, si vous avez fait le collège, il y a au moins un personnage qui va vous rappeler quelqu'un que vous avez connu, même un membre de votre famille ou dans l'exagération. Il y a toujours cette exagération qui marche, mais c'est un manga qui marche très très bien. Donc faut pas hésiter. C'est voilà. Si vous avez des gens que, alors moi je dirais quand même, essayez de cibler 12 ans, 12, 13 ans. Parce que il y a certains des personnages qui ont des comportements que moi je trouve assez compliqués. Si vous êtes ouvert avec vos enfants, n'hésitez pas à lui mettre et puis à lui expliquer quels sont ses comportements et pourquoi. Il y a de l'humour typiquement japonais dedans qui parfois nécessite aussi une explication parce que c'est pas un humour qu'on pratique on va dire au quotidien et qui nécessite d'être quand même recadré, mais ça marche vraiment très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à lire Komi cherche ses mots, n'hésitez pas à regarder la série sur Netflix parce que elle marche bien, elle est efficace. La version française, alors même si elle fonctionne, j'aurais tendance à vous diriger quand même vers la VO sous-titrée puisque Komi s'exprimant beaucoup par texte, elle a un petit cahier en fait dans lequel elle va finir par écrire des trucs et puis elle montre le cahier en se cachant derrière quand elle veut communiquer avec quelqu'un. En fait on vous lit ce qu'il y a de marqué, alors autant que ce soit sous-titré, même si c'est dit à voix haute dans l'animé, je pense que le sous-titrage peut-être plus efficace dans ce cas-là. Bon bref, vous ferez ce que vous voulez. La VO et la VF ne sont la VF est pas mauvaise par rapport à ce qu'on peut avoir, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous redonne les références. Donc c'est Komi cherche ses mots, c'est de Tomohito Oda, c'est publié aux éditions Pika. Il y a 6 tomes pour l'instant. La série ne comporte que 2 saisons et c'est disponible sur Netflix. Donc 2 saisons de 12 épisodes, ce qui fait un total de 24 épisodes et 28 tomes actuellement en VO. Donc voilà, c'est une série qui va pas être forcément hyper longue. Je ne sais pas si combien de tomes sont prévus au final, si elle est finie, j'ai même pas vérifié. Mais voilà, c'est une série qui fonctionne bien. Donc voilà. Et puis si ma fille est motivée et qu'elle a bien fait ses devoirs, elle pourra me faire une chronique et pour vous donner son avis à elle, parce que c'est aussi ça qui est important. C'est les gens qui lisent, c'est eux qui vont pouvoir donner principalement leur avis quand ils kiffent quelque chose. D'ailleurs, je relance mon annonce, qui est toujours ouverte. La porte du studio, la porte le micro de Radio G est toujours ouverte. Si vous avez envie de venir me parler d'une BD que vous avez aimée, n'hésitez pas à contacter moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook ou sur le mail de la radio ou mon mail lacazeseb@ je vous le redonne en fin d'émission. Mais n'hésitez pas à venir en parler, c'est vous qui pouvez le mieux parler des BD que vous avez aimés. On va continuer avec une BD complexe à lire et une BD complexe à comprendre. Mais qui sont deux BD différentes, attention. La première, c'est une BD qui s'appelle « La quille du siècle ». C'est de Louis Mézana et de Marthe Poisa. C'est publié aux éditions Nourriture Fus, que je ne connaissais pas du tout, je découvre. C'est un gros pavé qui est plutôt dense. Je n'ai même pas confirmé le nombre de pages. On est sur 190 pages à peine. 190 pages. Et ça s'appelle « La quille du siècle ». Pourquoi je dis qu'elle est compliquée, cette BD? C'est parce que elle est très dense. Il y a 190 pages, mais ça part dans tous les sens. C'est une BD qui s'appelle « La quille du siècle », je ne sais pas si je l'avais dit, et ça va nous parler de deux serveurs qui travaillent dans un bistrot branché qui s'appelle le Fillmore et qui ne sert que des vins naturels. On ne sait pas où c'est. On sait que c'est dans les années 2010, mais il n'y a pas de ville réellement mentionnée. Et puis, on va avoir ces deux serveurs, Charlie et Steve, qui nous expliquent qu'en fait, le métier de serveur dans un bar où il y a du bon vin, c'est quand même le must. Parce que d'accord, tu sers des bonnes bouteilles au serveur, mais quand les clients, aux clients, mais quand les clients sont partis, bah, tu t'ouvres les meilleures bouteilles que tu t'es gardées pour toi, et c'est quand même le meilleur de la vie de pouvoir déguster les meilleures quilles en loose day, en scred, et de goûter les meilleurs vins du monde. Et puis un soir, il y a un gars qui débarque, un japonais, et qui va commencer à parler d'un certain Dmitri Leonidovitch Costa, qui est censé être décédé depuis au moins 2 ans, j'ai perdu le, je sais plus combien, qui est décédé. Et lui, il affirme avoir discuté avec lui la veille. Et puis, il voudrait acheter du vin de ce mec-là. Et il va échanger aussi avec un autre gars, un Danois, qui aimerait bien aussi parler à ce Dimitri Leonidovitch Costa. Sauf que Dmitri Leonidovitch Costa est censé être décédé depuis quelques années. Et ben, ça pose un problème quand même de pouvoir boire du vin d'un type qui est censé plus en faire parce qu'il est censé être mort. Ou porté disparu. Enfin, on sait pas. En fait, cette BD, on va suivre Charlie et Steve, ces deux serveurs, dans une enquête, tambour battant, il y a des courses-poursuites, il y a plein de choses, parce que ce japonais, le lendemain, il est décédé. Et ils sont les deux dernières personnes à l'avoir vu. Et on va suivre l'itinéraire enivrant et enivré de Charlie et Steve dans cette enquête, dans ce milieu, comme c'est noté au dos de la couverture, mi-mystique, mi-mafieux du vin naturel et de la restauration. Et on va avoir plein de noms de super vins à boire. Il y a plein de lexique, il y a plein de jargon qui est utilisé. Si vous êtes un fan de vin, à mon avis, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir retrouver dedans. Moi, je suis pas hyper calé en vin. Je sais vous dire si j'aime bien ou si j'aime pas. Mais du coup, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans ce roman graphique. Et on nous embarque de manière vraiment à fond, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment dense en fait. Il y a beaucoup de textes, le dessin est, il y a très peu de, comment dire, de blanc, on va dire, dans cette BD. Le dessin, il y a des cadrages très étranges, les personnages, ils ont tous des gueules, hein, pour vraiment utiliser le terme qui va bien, ils ont des têtes très très particulière. C'est vraiment étrange de se jeter dans ce roman graphique. C'est très drôle. Je pense que si on l'adaptait au cinéma, ce serait un film qui ne marcherait pas forcément, mais où il y a tellement de rythme que ça en serait enivrant. On en sortirait presque autant bourré que les protagonistes. Mais ça marche bien. C'est vraiment très efficace. Faut pas être allergique au noir et blanc, puisque tout l'ouvrage est en noir et blanc et un peu de jaune que vous retrouvez sur la couverture, mais beaucoup plus rarement dans les pages intérieures. Et ça marche bien. Alors, clairement, je suis pas sûr d'avoir tout compris à l'histoire en elle-même. Alors, si, il y a un dénouement, hein, le scénario lui-même, j'ai compris, mais les moments où les personnages parlent de certaines choses que je n'ai pas forcément compris parce que je n'ai pas le langage, je n'ai pas l'habitude aussi de lire ça. Par contre, il y a une chose qui est importante dans ce livre-là, c'est que on nous parle de vin, on nous parle de consommer du vin, alors avec modération, tout ça, vous-même vous savez, mais on vous parle surtout de la façon de boire du vin. On dénigre beaucoup les gens qui vont être ce qu'ils appellent des buveurs d'étiquettes, qui vont trouver un vin bon uniquement parce que l'étiquette, c'est une étiquette prestigieuse et que la bouteille vaut ultra cher. C'est vraiment dans l'ouvrage, je pense que le thème et le message que veulent faire passer les auteurs, c'est que si vous buvez un vin, il faut que ce soit un vin qui vous plaise plutôt qu'un vin que vous allez aller chercher parce qu'il a une grosse étiquette, parce qu'il a une grosse renommée, parce qu'il a une robe machin avec des goûts de machin en première bouche et tout. Ça, ils sont pas fans en fait. C'est vraiment qu'est-ce qu'apporte le vin dans votre instant et pourquoi vous buvez du vin à ce moment-là. Et encore une fois, c'est une autre façon de boire le vin et c'est peut-être la seule façon, c'est peut-être pour ça que ce livre m'a parlé, c'est que je vais pas avoir le langage en fait de ces du vin. Je sais dire si j'aime bien un vin ou pas. Mais du coup, je le déguste et s'il me plaît, bah il est dans le moment présent ce vin et c'est ça qui est important, je pense, et c'est ça le message que voulaient faire passer les auteurs dans cet ouvrage. Alors les auteurs, ils sont pas des novices hein dans le vin. Louis Messana est serveur et sommelier depuis pas mal d'années dans des cafés à Paris. Il aime beaucoup la BD et du coup il s'est dit effectivement c'est aussi l'occasion d'en parler. Et puis la dessinatrice, elle est une directrice artistique qui m'a confirmé. Elle a travaillé notamment avec Château Cheval Blanc, donc le domaine viticole, pour pouvoir justement illustrer les étiquettes ou même faire du design. Donc le milieu du vin est présent chez les auteurs et du coup ça se ressent, quitte à perdre parfois un petit peu le lecteur, mais encore une fois l'histoire est passionnante, même si on comprend pas tout ce qui se passe, ça reste complètement barré et c'est digne d'une soirée bien arrosée avec de bons vins et de bons amis. Je vous redonne les infos, c'est de la quille du siècle, c'est aux éditions Nourriture Fût, c'est de Louis Messana et Mézana, on va dire, et de Marthe Poisa. Et c'est à consommer sans modération. N'hésitez pas. Le dernier, c'est un livre un peu compliqué à comprendre, alors que pourtant c'est un livre de vulgarisation. C'est un livre qui est publié aux éditions du Seuil, la revue dessinée. C'est une BD de Claire Allais et Benjamin Adam. C'est d'après le livre de Thomas Piketty et ça s'appelle « Capital et idéologie ». Le concept de l'ouvrage, c'est de nous expliquer pourquoi, dans notre monde, il y a des inégalités et pourquoi on n'arrive pas à les corriger. Et on va utiliser pour ça une famille, je ne sais même pas si elle est nommée en termes de personnages, et on va prendre tout l'arbre généalogique de cette famille et on va aller montrer qu'à chaque époque, en fait, il y a eu des inégalités. Donc, c'est une famille plutôt aisée hein, au départ. Et on va montrer, en fait, comment toutes ces, au fur et à mesure de ces générations, ces inégalités, elles ont non seulement perduré, mais elles ont aussi, elles se sont aggravées. On commence en fait avec un propriétaire terrien, un rentier qui s'appelle Jules de mémoire de tête et qui est en train de protester avec un de ses amis sur le fait qu'on va passer de l'impôt proportionnel à un impôt progressif. Et ça l'intéressait pas du tout parce que proportionnel, ça veut dire qu'on va plutôt, progressif, ça veut dire qu'on va plutôt, c'est l'impôt qu'on connaît en fait, c'est l'impôt en tranche. Et si on dépasse telle tranche, ben, on est plus imposé qu'une personne qui va avoir moins. Et du coup, il est pas d'accord, donc il proteste. Et puis on va remonter dans le temps, on va présenter les anciens de la même famille, deux frères, qui faisaient à la fois partie du clergé et de la noblesse. Et puis on nous parle aussi du tiers-état. Et on nous explique comment de ce trio d'inégalités, on est passé à un autre trio d'inégalités. Et ça marche très bien. C'est un album qui est très coloré, puisque en fait, chaque secteur historique est représenté par une couleur. Et c'est, ça marche bien. Donc c'est voilà. N'hésitez pas à le lire. C'est dense à lire. Ça demande quand même de se concentrer parce que il y a 170 pages et on nous parle quand même de finances, on nous parle d'histoire, on nous parle de plein de choses. Et c'est vraiment un ouvrage dense, mais c'est un ouvrage qui est hyper intéressant à lire parce que justement il y a plein de choses à comprendre sur ces inégalités qui nous concernent et qui vont nous pousser jusqu'au bout. Je vous redonne les références, c'est Capital et Idéologie, c'est d'après le livre de Thomas Piketty, et c'est de Claire Allais et Benjamin Adam. C'est disponible aux éditions du Seuil, la revue dessinée. That's all, folks. Vous venez de l'entendre, c'est pour qui annonce la fin de l'émission. Il ne me reste que quelques instants avant de nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma soirée, en ma compagnie, pardon. Une bonne soirée en ma compagnie. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le www.radio-g.fr dans quelques instants. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
La chance, parce que moi j'ai appris à lire, mais je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!
Radio G.
Radio G. 101.5 FM.
Vous êtes à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM.